archéologie naturelle, Père Philippe, 11 janvier 1984, Saint-Joseph.
On m'a demandé de ne pas répondre trop aux questions posées pour aller plus vite. Alors, je vais freiner un peu. Alors, voyons l'article 5. Dieu appartient-il à un genre quelconque? Une question très curieuse et très intéressante. C'est tout à fait autre chose que la question 4. Hein. On passe ici en logique. Et en fond, c'est toute la question de savoir s'il y a un langage, un discours qui est capable d'exprimer quelque chose de vrai à l'égard de Dieu. Puisque la logique regarde notre langage et notre manière de regarder Dieu. C'est une question très intéressante et très importante, surtout dans la philosophie du langage, la philosophie analytique. Alors, il semble bien, première objection, il semble bien que Dieu puisse entrer dans un genre. En effet, la substance est être de soi subsistant. Or, cette condition se réalise souverainement en Dieu, donc Dieu est le genre et dans le genre substance. Alors là, vous voyez, il y a des tas de choses qui sont sous-jacentes là-dedans. Le genre. Le genre, c'est ce qu'on appelle d'une manière habituelle le point de vue d'un être de raison. Je pense que c'est un être de raison. C'est ce qu'on a appelé un prédicat. C'est-à-dire un universel. Genre, c'est l'universel fondamental. Je vais aller plus loin dans l'ordre universel. C'est l'universel le plus typique. Alors, l'universel, c'est un être de raison. Vous voyez ce que c'est que l'universel. Hein, je suis obligé de vous rappeler ça parce que c'est impliqué dans cet article. Si on ne voit pas ça, on ne comprend rien du tout à cet article. Donc, ça fait partie de ces notions logiques. Ayez une fiche logique. Il faut avoir un cahier sur la logique, sur laquelle on essaie de comprendre ce que représentent les cinq prédicats. Vous savez, le genre, la différence spécifique, l'espèce, le propre et l'accident. Il faut savoir ça par cœur. Hein. C'est partie de ces choses qu'il faut savoir. Hein. La logique, voulez-vous, il faut l'apprendre. Hein. Si on ne l'apprend pas, on balbutie. Il faut apprendre ces choses-là. Donc le prédicat, c'est... Et le nom l'indique, c'est ce qui est attribué d'une manière universelle. L'universel, toujours le grec a l'avantage d'être beaucoup plus intelligible que le latin, il ne faut pas l'oublier. Alors c'est le catholo. Il est difficile de comprendre. Catholo, qu'est-ce que ça veut dire? Le selon le tout. Selon le tout. Voilà l'universel. Selon le tout, c'est-à-dire ce qui est attribué en totalité. L'universel, c'est ce qui est attribué en totalité. Quand vous dites « Pierre est un homme », homme universel est attribué en totalité à Pierre. C'est ce qui, au point de vue de l'extension et de la compréhension, est attribué en totalité à un nom, à un sujet. Donc c'est toujours du côté de l'attribut. Toujours du côté de l'attribut. L'attribut à l'égard d'un nom. Quand vous dites « Pierre est un animal », en logique, ça peut se dire. En dehors de la logique, c'est un peu gênant. D'accord, mais autrement, en logique, vous pouvez dire « Pierre est un animal ». Quand vous dites Pierre est un animal, animal est un genre qui est totalement attribué à Pierre. C'est vrai, Pierre est un animal parfait. La quand vous dites espèce, c'est un animal parfait. Quand vous dites espèce d'animal, vous voyez, vous faites des choses qui ne vont pas du tout au point de vue logique. Parce que animal est générique et vous dites espèce d'animal. Ce qui vous montre bien que vous êtes dans un état passionnel. Parce que la passion dépasse le point de vue logique. Alors quand vous dites espèce d'animal, eh bien ça c'est passionnel. Parce que c'est animal, c'est justement un point de vue générique, c'est le tout. Un attribut, attribué selon le tout. Et le tout le plus fondamental, c'est le genre. Le catholique. Et alors, catholique, le tout. Alors, selon le tout. C'est ce qui est attribué selon le tout. Ce qui est attribué en totalité. C'est le propre d'une attribution universelle. Une attribution universelle est une attribution qui justement fait que toute la signification de l'attribut est attribuée au sujet. Pierre est un animal. Pierre est un homme. Alors à ce moment-là, ce n'est plus le genre, c'est l'homme qui est l'espèce. Genre. Différence spécifique, espèce, propre, accident. C'est ça qu'on appelle les prédicables. Il ne faut jamais confondre les prédicables et les prédicaments. Hein? Les prédicaments, ils sont 10 et les prédicables, ils sont 5. Et les prédicables, c'est donc les diverses modalités de l'universel. C'est très très curieux. L'intelligence saisit les choses selon 5 modalités. Elle appréhende selon 5 modalités. Ce sont les 5 prédicables. Oui, c'est l'araignée qui tisse sa toile d'araignée pour attraper la mouche. Hein? Et alors, notre intelligence, elle attrape les choses, elle appréhende les choses selon 5 modalités. La modalité du genre, spécifique, rationnel, espèce, homme, propre, capable de rire. C'est vrai, capable de rire, parce que le singe n'est pas capable de rire, la vache non plus, sauf quand vous dites la vache qui rit. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est une réclame, ça n'a plus aucune signification réelle. Hein, aucune signification réelle. Donc, capable de rire, c'est le propre. Et l'accident, c'est la taille, la grosseur, n'importe quoi, toutes les choses accidentelles. Quoi. Cette vache, elle pèse tant. Ça, c'est très accidentel, c'est très très important pour le commerce, mais c'est accidentel au point de vue philosophique. Vous voyez, tandis que pour le commerce, évidemment, c'est intéressant, c'est important. Et comme quoi, le commerce est accidentel par rapport à la philosophie. C'est très accidentel, ça prend une importance énorme. Alors qu'au point de vue proprement philosophique, c'est purement accidentel. Alors vous avez 5 prédicables, et le genre, c'est le prédicable le plus fondamental, le plus universel. C'est celui qui a la plus grande extension et la plus petite compréhension. La plus grande extension et la plus petite extension. La plus grande extension et la plus petite compréhension. Compréhension, c'est la signification. La signification se prend toujours du côté de la compréhension. Et l'extension, c'est tout ce qu'il est capable de regarder. Alors, quel est le genre premier au point de vue philosophique? C'est substance. Le genre substance. Le genre substance. Le genre substance exprime justement le point de vue du mot. Ce qui est capable de recevoir des attributions. C'est le genre le plus général. Et c'est pour ça que la première objection consiste à dire Dieu est un genre, donc Dieu est substance, donc Dieu est dans un genre. Ça, c'est l'objection. Dieu est dans un genre. Je peux dire que Dieu est une substance. Si je peux dire que Dieu est une substance, ça prouve que Dieu est le terme le plus général qui soit, le plus substantiel qui soit, et donc le terme le plus général. Et donc, c'est le genre suprême. Dieu est le genre suprême. Alors, on va essayer maintenant de voir tout de suite la manière dont saint Thomas va répondre. C'est toute une petite théologie du genre. C'est pour ça que c'est très intéressant. Le Jean, saint Thomas précise, précède rationnellement ce qui est contenu dans ce Jean. Or, par rapport à Dieu, rien n'a de priorité ni réelle ni rationnelle. Il n'est donc pas dans un genre. Donc, le genre est prius secundum intellectum et o quod ingenere continetur. Le genre affecte mes idées, affecte mes concepts. Ce sont mes concepts qui sont génériques. Ce sont les termes qui expriment les concepts. C'est le concept animal qui est générique. C'est le terme animal qui implique cette très grande extension. Or, le genre précède rationnellement, c'est-à-dire selon l'intelligence, il est premier à ce qui est contenu dans un genre. Ce qui est contenu dans un genre, c'est la réalité contenue dans un genre. Le genre est antérieur, puisque le genre est une idée. Et c'est vrai, de cette manière-là, le genre est antérieur. Alors voici comment saint Thomas va répondre. Quelque chose peut appartenir à un genre de deux façons. Donc, les conditions pour qu'une réalité soit contenue dans un genre. Aliquid est ingénéré duplicitaire, de deux façons. Absolument, et en toute propriété, et en toute propriété de terme, comme l'espèce est contenue dans le genre. L'espèce est contenue dans le genre, homme, l'espèce homme est contenue dans le genre animal. L'espèce homme est contenue dans le genre animal. Le genre animal a une extension beaucoup plus grande que le genre homme. Que l'espèce homme. Et donc l'espèce homme est contenue dans le genre animal. Et on peut habituellement faire des grands cercles pour comprendre la compréhension. Alors vous avez le genre animal, très étendu. Dans le genre animal est contenu homme. La petite planète, vous voyez bien, donc il est contenu. Tout homme est animal. Tout animal n'est pas homme. Et qu'à faire ce petit raisonnement, vous comprenez tout de suite l'extension des choses. Je dis, tout homme est animal, ça c'est sûr. C'est bien évident que tout homme est animal fondamentalement et radicalement. Tout homme est un animal, radicalement et fondamentalement. Et quelquefois, il reste toujours à ce niveau-là. Quelquefois, il y a émergence de la raison. Par moment, émergence de la raison. Alors, il devient une espèce. Autrement, il est animal. Alors, tout homme est animal, tandis que vous ne pouvez pas dire toute espèce, tout homme, vous ne pouvez pas dire, vous dites que tout homme est animal, tandis que vous ne pouvez pas dire que tout animal est homme. Ce qui montre bien que la compréhension de l'espèce est moins que la compréhension du genre. C'est tout simplement ça qu'on souligne. Donc, si on regarde le double rapport, hein, la double manière d'être ingénéré, d'une façon absolue et en toute propriété de terme, comme l'espèce est contenue dans le genre, ou bien par réduction, comme les principes des choses ou les privations. Ainsi, le point et l'unité se ramènent au genre quantité parce qu'ils y jouent le rôle de principe. Le principe comme tel, hein, le principe comme tel n'est pas dans un genre. Ça nous le verrons au point de vue philosophique. Il est premier. Le principe est premier. C'est tout principe, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Alors, est-ce que le principe est un genre? Quelle différence y a-t-il entre le principe et le genre? Là, c'est une chose aussi très intéressante. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, c'est ça le principe. Le genre joue bien un rôle de premier dans l'ordre universel. Il est fondamental. Tout ce qui est fondamental est premier. Mais il est premier dans l'ordre d'une fonction. Il joue un rôle de premier dans l'ordre d'une fonction. mais il n'est pas premier dans la réalité, puisque le genre, c'est, ça n'existe pas dans la réalité. Je n'ai jamais vu une réalité générique. C'est pour ça qu'on dit que c'est un être de raison. C'est quelque chose que mon intelligence forge. C'est à cause de l'abstraction que le genre, que l'universel et que le genre universel apparaît. C'est parce que mon intelligence abstraite ne connaît pas intuitivement la réalité. C'est à cause de ça qu'il y a une connaissance générique, une connaissance universelle. C'est à cause de l'abstraction. C'est l'abstraction qui donne naissance au genre, qui donne naissance à l'universel. L'universel, il existe dans mon intelligence. Il n'existe pas dans la réalité. Il y a un fondement de l'universel dans la réalité, mais l'universel n'est pas dans la réalité. Il n'existe que dans mon intelligence. Le principe, il peut exister dans la réalité. Il y a des principes qui existent dans la réalité, des principes qui n'existent que dans mon intelligence. Le principe qui existe dans la réalité, c'est une cause. Et le principe qui n'existe que dans mon intelligence, c'est un principe d'intelligibilité. Alors vous voyez que quand je dis principe et cause, la différence entre le principe et le genre, c'est que le principe peut exister dans la réalité. Le genre, non. Mais il y a quelque chose de semblable entre le principe et le genre, c'est que tous les deux jouent un rôle de premier, quelque chose de fondamental et de premier. Mais de deux façons différentes. D'un côté, dans l'ordre des êtres de raison et de l'universel, et de l'autre côté, dans le point de vue de l'intelligibilité ou de la réalité. C'est en ce sens-là qu'on peut ramener par réduction, on peut ramener les principes à quelque chose de générique. Mais le principe des choses ou les privations des choses ne sont pas normalement directement dans un genre. Ainsi, le point et l'unité se ramènent au genre quantité parce qu'ils y jouent le rôle de principe. La cécité ou toute autre privation se ramène au genre des choses qui correspondent au positif. Mais Dieu ne peut appartenir à un genre d'aucune de ces manières. Dieu est au-delà de tout genre. Ça, c'est très important à bien saisir. Dieu est au-delà de tout genre. C'est pour ça qu'au sens tout à fait fort, je n'ai pas de concept de Dieu. Parce que tous mes concepts ont quelque chose d'un peu générique. Je n'ai pas de concept de Dieu. Même si j'ai un concept de l'être, je n'ai pas de concept de Dieu. Au sens très très fort, je n'ai qu'un jugement d'existence sur Dieu. Je n'ai pas un concept de Dieu. Je ne connais pas Dieu quantitativement. Je ne connais pas Dieu génériquement. Je n'ai donc pas au sens strict un concept de Dieu. Il y a un nom qui m'est transmis par les traditions religieuses, mais ce nom, c'est justement un nom qui dépasse toutes les significations que je puis avoir. Alors, on va nous montrer ici comment Dieu n'est pas dans un genre. Donc, Dieu échappe à la logique. La logique ne peut rien dire de Dieu. Et c'est ça l'intérêt ici. La logique ne peut rien dire de Dieu. Donc, si j'identifie philosophie et logique, je ne peux plus rien dire de Dieu. Dieu échappe à la logique. Complètement. Parce qu'il n'est pas dans un genre. Mais ma connaissance philosophique, ma connaissance métaphysique, va plus loin que la logique. La logique regarde le conditionnement de ma vie intellectuelle, alors que la métaphysique regarde la finalité de mon intelligence. La logique est toujours au niveau du conditionnement de ma vie intellectuelle. C'est parce que j'ai une connaissance abstraite, abstractive, que la logique existe. C'est parce que j'ai une connaissance instinctive. Si j'avais une connaissance purement intuitive, il n'y aurait pas de logique. Dans les anges, il n'y a pas de logique. Vous n'avez qu'à demander à votre bon ange, vous verrez bien. Il n'y a pas de logique chez les anges. Il n'y a pas de logique chez les anges. Il n'y a pas de logique en Dieu. Heureusement. Dieu n'est pas un être logique. Et la logique ne peut rien dire de Dieu, et Dieu n'a aucun regard logique. Il a un regard de sagesse. C'est l'intérêt de lire ça, cet article. C'est une purge. Ça nous purifie complètement, ça nous fait comprendre que dès que vous restez dans la logique, vous n'éteindrez jamais Dieu. C'est une connaissance purement métaphysique qui peut atteindre Dieu. Une connaissance qui touche l'être. Alors que la logique demeure dans l'être de raison. La logique demeure dans l'universel. Eh bien, l'universel ne peut jamais rien dire de Dieu. Dieu est au-delà de l'universel. C'est un être purement singulier. Purement. Absolument pas universel. Tandis qu'en nous, il y a un fondement de l'universel. Un fondement de l'universel, c'est évident. On peut dire quelque chose de l'homme par la logique. On peut dire quelque chose de la vache par la logique. Est-ce qu'on peut dire que la vache est un animal ? C'est déjà quelque chose. Tandis que vous ne pouvez rien dire de Dieu par la logique. Mais rien du tout. Dieu échappe totalement à la logique. Il est tout autre que la logique. C'est beau ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, ça fait comprendre comment seule la contemplation peut atteindre Dieu. Et que tout raisonnement, tout logique comme telle ne peut rien dire de Dieu. Dieu est au-delà. C'est ça que ça veut dire, vous voyez. Et à ce point de vue-là, c'est très très intéressant. Parce que ça montre la transcendance de Dieu. Tout d'abord, alors on va nous montrer que Dieu ne peut pas appartenir à un genre d'aucune manière. Donc Dieu n'est pas une espèce. L'espèce est dans le genre. L'espèce est dans le genre. L'espèce est dans le genre animal. Bien, Dieu n'est pas une espèce. On va dire que Dieu est une espèce. Dieu n'est pas dans un genre. Il n'y a rien au-delà de Dieu. Dieu est principe. Alors vous allez dire, ah mais le principe, on va ramener tout à l'heure. Attention, il faut faire attention. Et on va voir qu'on ne peut pas ramener Dieu à un genre comme un principe. Tout d'abord, qu'il ne puisse être espèce dans un genre, c'est ce qu'on peut démontrer de trois façons. En effet, l'espèce se forme par genre et différents spécifiques. L'espèce homme implique genre animal, différents spécifiques rationnels. Et toujours, ce qui fournit la différence constitutive de l'espèce joue à l'égard de ce qui donne le genre le rôle de l'acte par rapport à la puissance. C'est aussi très intéressant. Vous avez le genre animal par sa signification, sa compréhension. Le genre animal va être précisé, actué, déterminé par la différence spécifique. La différence spécifique rationnelle. Ou irrationnel. Vous pouvez dire que l'animal est ou rationnel ou irrationnel. L'animal rationnel, vous le connaissez très bien. L'animal irrationnel, vous le connaissez beaucoup moins bien. Parce que c'est la vache. L'animal se divise en rationnel et irrationnel. C'est une vie. Par la différence spécifique, et le genre par rapport à la différence spécifique, c'est l'analogue de la puissance par rapport à l'acte. Très intéressant au point de vue philosophique. Le genre à la différence spécifique est comme la puissance par rapport à l'acte. Autrement dit, la différence spécifique acte le genre et lui donne sa détermination propre. le genre animal est actué par les différences spécifiques rationnelles pour faire justement homme. Et l'animal est en puissance ces différences spécifiques rationnelles. Il est en puissance ces différences spécifiques irrationnelles. Ça, je crois que vous pouvez tous comprendre ça, ça fait un petit effort de logique. Hein. C'est pas mauvais de faire un peu de logique comme ça par rapport aux genres et à différences spécifiques. Donc en effet, l'espèce se forme par genre et différence. Et toujours, ce qui fournit la différence constitutive de l'espèce joue à l'égard de ce qui donne le genre, le rôle de l'acte par rapport à la puissance. Ainsi, ce terme « animal » se prend de la nature sensitive, signifiée au concret, car cela est animal qui est de nature sensitive. Cet autre terme, rationnel, raisonnable, se prend de la nature intellectuelle, car on dit raisonnable ce qui est de nature intellectuelle. Or, l'intellectuel est au sensitif, dans la relation de l'acte à la puissance. Il en est de même de tout le reste. Comme donc en Dieu, nulle puissance ne vient se joindre à l'acte. Il est impossible que Dieu appartienne à un genre à titre d'espèce. Toute, autrement dit, toute réalité qu'on peut référer à un genre implique une potentialité. Or, Dieu n'implique aucune potentialité, donc Dieu ne peut être référé à rien. Et c'est vrai. Je ne peux pas mettre une référence. Dieu est sans référence. C'est extraordinaire. Alors que toutes les autres réalités, je les réfère à un genre. Mais quand vous dites « je suis un animal », toute vérité, je suis un animal, j'ai une référence à l'animal, c'est une manière de me référer. Je me réfère à quelque chose de plus général que moi, donc d'une certaine manière de plus intelligible que moi. Le genre est plus intelligible que la différence spécifique, au point de vue de la connaissance génétique. Je connais d'abord le genre. Je connais le genre animal, pour pas beaucoup d'intelligence pour connaître le genre animal. Tout le monde peut connaître ce que c'est qu'un animal. Un homme, c'est des gens qui sont évolués. Mais l'animal, c'est facile de connaître l'animal. On voit bien. Faites la spiritualité de la planche, l'animal revient immédiatement. C'est tout de suite. Dès que vous ne faites plus un effort, l'animal revient tout de suite. Il revient au galop. Je veux faire manger la bête, hein. c'est bien ça qu'on veut dire. Donc l'animal, on connaît animal très facilement, différence spécifique un peu plus difficilement. Donc l'homme est en référence avec animal, il est en référence avec le genre. Dieu, je ne peux le mettre en référence avec rien. C'est merveilleux, ça. Pour essayer de découvrir la transcendance de Dieu. En second lieu, donc en premier lieu, vous voyez, c'est ça, c'est que je ne peux pas mettre Dieu en référence avec quelque chose parce que ça irait contre ce qu'est Dieu. Dieu est acte pur, aucune potentialité en lui. Alors je ne suis en référence avec quelque chose d'autre de plus général que moi qu'en fonction de ma potentialité. C'est qu'il y a en moi une potentialité, c'est pour ça que je peux être en référence avec quelqu'un d'autre. Ce qui est en acte avec moi répugne être en référence avec un autre. Ça aurait pu être un classement. Il n'y a rien de plus répugnant que de se voir un numéro dans un classement. On aime tous un enfant, on aime tout, un numéro dans ce classement, vraiment, c'est pas drôle. Hein. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Parce que ça met en lumière votre potentialité. Vous êtes un animal dans la série. C'est pas drôle du tout. C'est la potentialité. Vous êtes en référence avec quelque chose de plus général. Et on sent très bien ça. Ça répugne à notre originalité propre. Notre acte nous met hors série. et notre potentialité nous met dans la série. Or, Dieu est acte pur, il ne peut pas être mis dans une série. Vous ne pouvez pas situer Dieu. Impossible. Si vous situez Dieu, c'est faux. Vous ne pouvez pas le situer. Là, il est au-dessus, Dieu. Mais non, il n'est pas au-dessus. Ça, c'est vous qui imaginez. Dieu n'est pas au-dessus. Il n'est pas ce qui est plus élevé. Non, il est présent à tout. Parce qu'il est acte pur. Pas de référence. Donc ça, c'est très important. Pas de référence. Deuxièmement, deuxième raison. L'être de Dieu est son essence même, ainsi qu'on l'a fait voir. Si donc Dieu était dans un genre, ce genre serait nécessairement le genre être. C'est évident. C'est le genre par excellence. Hein? Est-ce que l'être est un genre? Non, ça, c'est une question très débattue et extrêmement intéressante. La substance peut être dans un genre, mais pas l'être. Ni l'être. Ni le bien, ni le vrai, ni l'âme. Aucun des transcendantaux ne sont dans un genre. Et c'est pour ça qu'on les appelle des transcendantaux. Ce sont des termes, des notions qui sont au-delà du genre. Le terme être, le terme vrai, le terme bon, c'est au-delà du genre. A fortiori, l'être premier. Et c'est pour ça le raisonnement de saint Thomas est très intéressant. Si par hasard Dieu était dans un genre, si par hasard Dieu était dans un genre, si par hasard vous vouliez mettre Dieu dans un genre, quel est le genre que vous choisirez? L'être ou le bien? Ou l'amour? Si je suis martien, je mettrais l'amour. Je dirais Dieu sans l'être, mais amour. Ça revient exactement au même. Hein. Je veux dire, si vous dites Dieu est amour, Dieu est être, ça revient au même, profondément, ça revient au même. Parce que c'est des termes qui sont en dehors du genre. Alors, si donc Dieu était un genre, ce genre serait nécessairement le genre être. Car le genre désigne l'essence, étant attribué essentiellement. Or, le philosophe démontre, au livre 3e de la métaphysique, vous voyez que ça sert à quelque chose, que l'être ne peut être le genre de rien. L'être n'est pas dans un genre. Le terme être n'est pas une notion générique. Car tout genre comporte des différences spécifiques étrangères à l'essence de ce genre. Et l'on n'en peut découvrir aucune hors de l'être, vu que le non-être ne peut rien différencier. Il reste que Dieu est hors de tout. Alors comprenons bien ça. C'est intéressant, ça, c'est très intéressant. Et c'est très actuel, vous savez, ces choses-là. Il ne faut pas croire que c'est lointain, c'est très très actuel, toutes ces notions-là. C'est d'essayer de comprendre le genre comme tel. Il est en puissance. Et donc la différence spécifique qui vient déterminer le genre est hors de l'ordre, parce que ce qui est en marche n'est pas en puissance. Donc nécessairement la différence spécifique est en dehors du genre. La différence spécifique rationnelle n'est pas contenue dans l'animal. Si rationnelle était contenue dans l'animal, elle ne serait pas une différence spécifique, il ne viendrait pas la tuer. L'acte vient actuer la puissance parce qu'il n'est pas la puissance. Autrement, il ne pourrait pas la tuer. Donc la différence spécifique est nécessairement extrinsèque au genre. Il vient diviser le genre. Il vient actuer le genre. Donc, si Dieu, si l'être était dans un genre, si l'être était dans un genre, il faudrait une différence spécifique qu'il ne soit pas l'être. Qu'il ne soit pas être. Alors, ce qui n'est pas être est non-être. Donc il faudrait que la différence spécifique soit non-être. Or, le non-être n'est pas rien, ne peut pas différencier le genre, l'être. Donc, le genre, l'être ne peut pas être dans une genre. Parce que l'être n'est pas en puissance. L'être par lui-même n'implique aucune potentialité. L'être par lui-même ne fait appel à aucune autre détermination que l'être. On est en présence d'une notion tout à fait première qui est au-delà du genre. Vous pouvez dire la même chose pour le bien. Vous pouvez dire la même chose pour le vrai. Vous pouvez dire la même chose pour l'humain. Vous pouvez dire la même chose pour Alicuir. On ne le traduit pas Alicuir. Alors, Alicuir. Vous avez les cinq notions transcendantales. Et les cinq notions transcendantales sont au-delà du genre. Alors ça, c'est très très intéressant à voir. Oui, parce que ça nous montre que si notre manière de connaître, c'est de connaître par genre et différences spécifiques, cependant, nous avons un autre registre de connaissance qui n'est pas cette connaissance dite univoque, qui est une connaissance analogique. Nous sommes capables de saisir ce qu'est l'être, ce qu'est le bien, ce qu'est le vrai, ce qu'est l'homme. On est capable de saisir. Si on est capable de saisir, ça prouve qu'il y a en nous une autre manière de connaître que de connaître par genre et différences spécifiques. Et c'est ce qu'on dira quand on dira qu'on a une manière analogique de connaître. Et non pas une manière univoque de connaître. La manière univoque de connaître repose fondamentalement sur la connaissance générique. La connaissance générique est une connaissance univoque. Alors vous savez ce que c'est, univoque et analogique, hein ? On va voir ce que c'est, alors. Univoque et analogique, ça c'est une notion tout à fait première qu'il faut essayer de saisir, univoque et analogique. Dans l'ordre de l'attribution, quand vous dites « Pierre est animal », animal est attribué à Pierre. Et animal est attribué à Pierre univoquement. Quand vous dites le chat est un animal, animal est attribué au chat univoquement. C'est la même signification de animal qui est attribué au chat qui est à moi. C'est la même signification. Et donc, si c'est la même signification, on dira que c'est un attribut univoque. Si au contraire, ce n'est pas la même signification, mais c'est une signification autre à l'un et à l'autre, si c'est une signification totalement autre, vous direz attribution équivoque. Et si c'est une attribution autre, mais avec un certain ordre, vous direz analogique. Donc ça, là encore, il faut savoir ça. C'est des notions tout à fait premières qui reviennent tout le temps. Des notions logiques, oui. Des notions logiques d'attribution. L'attribution univoque, l'attribution équivoque, l'attribution analogique. L'attribution univoque, c'est lorsque le même terme ayant même signification est attribué à deux choses diverses. Prenez l'exemple, animal attribué à Pierre, animal attribué à chat. Une attribution univoque, c'est la même signification de l'animal. L'attribution équivoque, c'est l'attribution très simple d'une même chose attribuée à deux réalités totalement différentes. C'est la fameuse chose, l'œil de bœuf. Hein. Ça fait tout à fait équivoque. Hein. L'œil de bœuf, une fenêtre, c'est un œil de bœuf. Hein. Et puis l'œil de bœuf, vous avez dans votre assiette. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, si c'est cette chose. Alors, vous avez l'œil de bœuf qui est équivoque aussi quand Aristote dit l'homme vivant et le cadavre. En fait, l'œil de bœuf dans l'assiette, je pensais au cadavre, il n'est plus très vivant. Donc, c'est encore équivoque. Alors, l'œil de bœuf, vous voulez vous servir l'œil de bœuf. La petite fenêtre, l'œil de bœuf dans votre assiette, et l'œil de bœuf qui vous regarde. Il est vivant, il y a trois équivoques. Si on vous sert sur une assiette un œil de bœuf, hein. Une belle fantaisie. Non, regardez ça, avec étonnement, Et c'est vrai, c'est un œil de bœuf, mais c'est plus un œil de bœuf, c'est un cadavre. Donc c'est équivoquement. Il est équivoquement œil de bœuf. Comme le cadavre est équivoquement œil. Et évidemment, équivoquement corps. C'est plus le corps de l'homme. C'est plus un corps, c'est un cadavre. Ah, c'est extraordinaire, ça. Ça fait penser. L'équivocité. Alors, l'équivocité, c'est l'attribution équivoque, totalement différente. L'attribution analogique, c'est lorsque il y a une diversité, c'est tout autre, et cependant, dans le tout autre, il y a un ticoïnome. Il y a quelque chose de commun. Il y a un ticoïnome, il y a quelque chose de commun. Alors, c'est simple, l'attribution analogique, quand vous dites « Dieu est bon », « Dieu seul est bon ». Jésus dit « Dieu seul est bon ». Vous dites « Cette âme, il est bon ». Ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Vous dites « Je suis bon ». C'est encore autre chose. La bonté de l'âme et votre bonté, c'est analogique. Ce n'est pas équivoque, c'est analogique. Il y a un petit commun, il y a un petit quelque chose de commun, très très caché, hein, derrière l'âme, c'est bien évident, c'est très très caché. Il y a quelque chose de commun. Alors il y a un certain ordre qu'on pourrait établir, où est la première bonté? Alors on dira la bonté suprême, c'est Dieu. Mais la bonté de Dieu est totalement différente de ma bonté. Et la bonté du cheval est encore tout à fait différente de celle de l'âme. Pas du tout la même chose. Et si vous confondez la bonté du cheval et la bonté de l'âme, faites des erreurs graves. C'est pas la... Et la bonté du chat, c'est encore autre chose. Hein. Alors vous voyez, la bonté est un terme analogique, c'est attribué diversement avec un certain ordre. Alors vous avez donc les significations univoques. L'univocité est fondée sur le genre. L'univocité est fondée sur le genre. Un terme est dit univoce, univoquement attribué, quand c'est le même terme ayant la même signification. Un terme est dit attribué équivoquement, lorsque de fait c'est le même terme avec une signification totalement différente. Et il est dit univoque quand il est le même terme avec une attribution autre, avec quelque chose de commun. Ça, il faut le savoir. D'un langage, et c'est un langage que tout le monde entend à sa façon, diversement, mais c'est un langage reçu par tout le monde. Les termes univoques, équivoques, analogiques. Alors vous comprenez comment Dieu ne peut pas être dans un genre, puisque si Dieu était dans un genre, ce serait le genre être. Parce que en Dieu, l'essence et l'exister ne font qu'un. Donc ça ne pourrait être que le genre être. Or, l'être n'est pas dans un genre, donc Dieu n'est pas dans un genre. Troisième raison, enfin, toutes les réalités appartenant à un genre commun doivent avoir en commun aussi la nature ou essence du genre qui leur est attribuée d'une attribution essentielle. Mais elles diffèrent par l'être, car l'être n'est pas le même, par exemple, de l'homme et du cheval, et de tel homme et de tel autre homme. D'où il suit que les réalités ainsi logées, situées dans un genre, sont soumises à la distinction de l'être, de la nature ou essence. Or, en Dieu, ces deux choses diffèrent point, comme on l'a montré, Dieu n'appartient donc pas à un genre à titre d'espèce. Nous reviendrons là-dessus.